Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio, en compagnie de Christine. Pour ce 13e épisode du millefeuille, c'est Arundhati Roy, romancière, essayiste et militante indienne qui est à l'honneur avec son premier roman « Le Dieu des petits riens », une fiction où elle nous plonge dans la société indienne des années 60 à travers le destin de deux enfants jumeaux et de leur famille.
Est-ce que malgré tout, le fait d'écrire fiction, pour vous, hein, vous semble plus... innocent, c'est-à-dire peut vous exonérer personnellement d'un certain type d'engagement que vous ne ressentiriez pas ou que vous n'avez pas ressenti en écrivant des essais de non-fiction.
You know, I think everybody understands that fiction.
Tout le monde comprend bien que la fiction est subversive de manière beaucoup plus profonde qu'un essai. Elle agit plus en profondeur. Donc, on ne me laisse pas tranquille, même quand je publie des fictions.
C'est donc Arundhati Roy que nous venons d'entendre lors d'une interview réalisée pour l'invité culture de la matinale de France Culture le 15 octobre 2016. Mais sans plus attendre, une mise en bouche pour démarrer avec le début de ce roman. À Yémenem, en mai, est chaud et maussade. Les journées y sont longues et humides. Le fleuve s'étrécit. Les corneilles se gorgent de mangues lustrées dans l'immobilité des arbres verts olives. Les bananes rouges mûrissent. Les jacques éclatent. Les grosses mouches bleues sont ivres et bourdonnent sans but dans l'air lourd et fruité, pour finir par aller s'assommer contre les vitres transparentes et mourir, pansues et effarées, dans le soleil. Les nuits sont claires, mais baignées de paresse et d'attente chagrine. Mais dès le début du mois de juin, éclate la mousson du sud-ouest, et suivent alors 3 mois de vent et de pluie, entrecoupés de brefs intervalles de soleil, d'une lumière vive, acérée, que les enfants tout excités saisissent au vol pour jouer. La campagne se couvre d'un vert impudique. Les démarcations s'estompent au fur et à mesure que s'enracinent et fleurissent les haies de manioc. Les murs de briques prennent des tons vermousses. Les vignes vierges montent à l'assaut des poteaux électriques. Les pousses rampantes vrillent la latérite des talus et envahissent les chemins inondés. On circule en barque dans les bazars. Et des petits poissons font leur apparition dans l'eau qui remplit les nids de poules des ponts et chaussées. Il pleuvait le jour où Raël revint à Yémenem. Des cordes argentées frappaient en séton la terre meuble, labourée comme sous le feu de la mitraille. La vieille maison sur la colline portait son toit à pignons pentus, enfoncés jusqu'aux yeux. La maison avait l'air vide. Portes et fenêtres fermées, véranda abandonnée, aucun meuble nulle part. Mais dedans, Baby Koshama était toujours en vie, et la Plymouth bleu ciel avec ses ailerons chromés était toujours garée dehors. Baby Koshama était la petite grand-tante de Raël, la sœur cadette de son grand-père. Elle s'appelait en fait Navomi Ipe, mais tout le monde l'appelait Baby. Du jour où elle avait été en âge de devenir grand-tante, on l'avait baptisée Baby Koshama. Ce n'était pourtant pas elle que Raël était venue voir. Pas plus la nièce que la petite grand-tante ne vivait d'illusions à ce sujet. C'était pour son frère, Esta, que Raël était revenue. Ils étaient jumeaux, des faux jumeaux, des dizygotes, comme disent les docteurs, née de deux œufs distincts mais simultanément fertilisés. Estapen était l'aînée de 18 minutes. Ils ne s'étaient jamais beaucoup ressemblés tous les deux, et même du temps où ils n'étaient encore que des enfants maigres comme des allumettes et plats comme des limandes, dévorés par les vers, affublés d'une houppe à la Elvis Presley, pas plus les membres de la famille bardés de sourires que les quêteurs de l'église chrétienne de Syrie qui venaient souvent à la maison ne s'étaient livrés aux habituels. C'est lequel celui-là ? La fille ou le garçon ? C'était à un autre niveau, plus profond, plus secret, que se posait pour eux le problème de l'identité. Sa situation sur l'étagère ? Eh bien, le dieu des petits riens se trouve entre les livres de Philip Ross et ceux de Carlos Ruiz Zafón. Est-ce que Arundhati Roy aurait apprécié ce compagnonnage d'étagère ? Si on considère Philip Ross, célèbre écrivain américain, comme un grand témoin de l'histoire de son pays depuis les années 40 jusqu'en 2012, année où il a cessé d'écrire, alors oui, on peut trouver un rapport entre eux dans leur œuvre respective et le rôle qu'ils entendent endosser dans leur métier d'écrivain. Pour Carlos Ruiz Zafón, le lien pourrait paraître plus ténu. Zafón est un romancier espagnol qui s'est rendu célèbre avec sa tétralogie « L'ombre du vent », une saga historique qui met à l'honneur le livre et la littérature. Carlos Ruiz Zafón disait que le romancier était un peu comme un architecte, qu'un roman est une cathédrale de mots et qu'il faut se mettre au travail en ayant déjà les plans. Alors voilà le pont qu'on pourrait bâtir entre lui et Arundhati Roy, qui a, par ailleurs, suivi des études d'architecture. Je le reconnais, j'ai peu d'informations sur les écrivains qu'elle affectionne et ceux dont elle se sent proche. On pourrait bien sûr dire que l'admiration que lui voue Nancy Houston, évoquée dans le dernier podcast du Millefeuille, est réciproque, mais c'est juste un souhait. On pourrait la rapprocher d'auteurs qui ont à cœur la défense des droits humains et de l'écologie. Là, sûrement on peut construire des ponts, notamment avec Richard Powers pour son Arbre Monde, avec l'œuvre et l'engagement de Luis Sepúlveda, qui a lui aussi fait l'objet d'un podcast, mais aussi avec Djaili Amadou Amal pour ses romans dénonçant le sort des Camerounaises confrontées au patriarcat. Et pourquoi pas un pont avec Romain Gary, notamment à travers son roman « Les racines du ciel ». Romain Gary qui écrivait « Il ne faut pas choisir ce qu'on défend, la nature ou l'humanité, les hommes ou les chiens. » Non, il fallait s'attaquer au fond du problème, la protection du droit d'exister. Concernant Romain Gary, je vous le promets, on y reviendra dans un prochain podcast. Arundhati Roy est une des voix marquantes de la littérature indienne. Elle est née en 1961 à Shillong, en Inde. Ses parents ayant divorcé alors qu'elle a 2 ans seulement, elle passe son enfance avec sa mère et son frère au Kerala. Après avoir suivi des études d'architecture, elle se tourne vers le cinéma et la télévision avec l'écriture de scénarios, la réalisation d'un film où elle jouera également comme actrice, avant de se consacrer à l'écriture de son premier roman, Le Dieu des Petits Riens. C'est lui qui la rendra célèbre en 1997. Mais c'est aussi à la sortie de son roman qu'elle est accusée de tous les maux en Inde. Elle est confrontée à des poursuites judiciaires car on l'accuse de corrompre la morale publique. Et si les élites indiennes ont à ce moment reconnu son talent, quand elle a pris position ensuite contre le développement du nucléaire, ces mêmes élites lui sont devenues hostiles. C'est d'ailleurs en réaction au test nucléaire indien de Pokharan au Rajasthan qu'elle écrit son premier essai avec « The End of Imagination », la fin de l'imagination. Elle délaisse ainsi la fiction pendant de nombreuses années pour concentrer son écriture sur de nombreux essais et des articles abordant les thèmes de l'écologie et des droits humains. Ils sont le témoignage de son engagement pour la réduction des inégalités et la défense de la dignité humaine, contre les dérives politiques de son pays, entre autres vers un ultranationalisme hindou. Dans « Capitalisme, une histoire de fantôme », paru en 2016, Arundhati Roy s'insurge contre les excès du capitalisme indien. Les fantômes du pays sont les centaines de milliers de fermiers qui recourent au suicide pour échapper à leurs dettes. Au même moment, sera également publié « Que devons-nous aimer ?» à la rencontre d'Edward Snowden, qu'elle écrit avec l'acteur américain John Cusack à la suite de leur rencontre avec le lanceur d'alerte, ancien employé de la CIA et de la NSA. Compte tenu de ses prises de position, elle est poursuivie en justice dans son pays et elle fait l'objet d'attaques insidieuses du fait de sa notoriété. En 2023, elle est récompensée par le prix européen de l'essai Charles Veillon pour l'ensemble de son œuvre. Quand on lui demande si elle se considère davantage comme une militante ou une écrivaine, elle répond que pour la non-fiction, elle est poussée par une sorte d'urgence à écrire. En revanche, pour la fiction, il lui faut prendre le temps. C'est plus comme une danse, une chorégraphie. Mais pour elle, la fiction, c'est une façon de regarder le monde. En 2017, soit 20 ans après le succès de son « Dieu des petits riens », elle revient au roman avec « Le ministère du bonheur suprême » où, à travers la fiction, elle dépeint une société indienne plurielle mais divisée où se mêlent intolérance, nationalisme et modernité.
Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure. Fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. T'es seul sur un tas d'ordures, torture, redouter d'être une imposture, froidure qui nous gerce le cœur et rouille les jointures. Oui, je les ressens quand les larmes de l'enfance, toute la vie son murmure, où sont l'épaule et les mots qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Griffure, je lèche ta triste figure. Morsure, ton sang et ses éclaboussures. Roulure, les salauds qui peu à peu nous ont à l'usure. Oui, je les ressens. Dans les larmes de l'enfance, toute la vie son murmure. Où sont l'épaule et les mots qui te rassurent? Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure. Fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Oui, je les ressens. Oui, je les ressens comme toi. Ouais, je les ressens comme toi.
Le Dieu des petits riens est donc le premier roman d'Arundhati Roy paru en 1997. Il a été couronné du Booker Prize à sa sortie, l'équivalent anglais du prix Goncourt, et ce succès lui a valu une reconnaissance internationale. Il a été traduit de l'anglais par Claude De Manuelli et on peut saluer sa performance tant la langue d'Arundhati Roy est particulière, riche, inventive, unique. S'il ne s'agit pas d'un récit autobiographique, il s'inspire cependant des années d'enfance qu'elle a passées au Kerala, un état au sud de l'Inde. Alors que Rahel vit depuis plusieurs années aux États-Unis, où elle est partie étudier, elle revient sur les lieux de son passé pour y retrouver son frère jumeau, Esta. Les souvenirs émergent, ceux de sa mère Amou, qui les a élevés sans leur père, aux côtés de leur grand-mère aveugle, Mamachi, de leur oncle Chako et de leur grand-tante, Baby Koshama. Elle évoque aussi Veluta, l'amant secret de leur mère. Cette enfance, qui pourrait avoir un goût de paradis, va se trouver sacrifiée par un drame sordide dans une société où la religion, les castes et les traditions ont la dent dure. Ces mêmes castes où les intouchables doivent marcher à reculons et effacer avec un balai les traces de leurs pas afin de ne pas souiller les pas que viendront ensuite poser les touchables. Dès le début du récit, Arundhati Roy distille les contours de la tragédie qui va séparer Rahel et Esta et marquer à jamais leur vie, ainsi que celle de leur mère, Amou. Dans ce roman, la langue de la romancière enivre. Elle est luxuriante, inventive, poétique, sensuelle, onirique, parfois crue, mais aussi teintée d'humour. Comment j'ai découvert ce livre? Eh bien, c'est une amie qui m'avait parlé de ce roman à sa sortie et suivant son enthousiasme, c'est en librairie. Je l'ai acheté, je l'ai lu et ensuite, comme les bonnes recettes qui se partagent et se propagent de maison en maison, je l'ai prêté et en ai beaucoup parlé autour de moi. Cette plongée dans l'Inde traditionnelle où position sociale, caste et religion régentent la vie de chacun avait été une vraie découverte pour moi, sans parler de la langue particulière d'Arundhati Roy qui compte énormément dans ce voyage. Mais mieux que de vous en parler, retrouvons à présent un deuxième extrait du Dieu des petits riens, avec l'évocation de la maison familiale, celle qui a bercé l'enfance de Rahel et d'Esta, et le portrait de leur grand-mère Mamachi. Et c'est Antoine qui nous propose d'écouter ce deuxième extrait.
La maison d'Ayemenem était une vieille maison, belle et imposante, un peu hautaine, comme si elle n'avait pas grand-chose à voir avec ceux qui l'habitaient. Comme un vieillard aux yeux chassieux qui regarde jouer des enfants et ne voit que l'éphémère de leur exultation échevelée et de leur enthousiasme sans réserve pour la vie. Le toit de tuiles pentues s'était fait sombre et moussu avec l'âge et la pluie. Les châssis triangulaires en bois insérés dans les pignons était délicatement sculptée. La lumière qui filtrait au travers et dessinait des motifs sur le sol était pleine de secrets. Loups, fleurs, iguanes, changeant de forme avec l'ascension du soleil dans le ciel, mourant pour quelques heures au crépuscule. Les portes avaient non pas deux, mais quatre volets de teck, si bien qu'autrefois les dames pouvaient laisser fermer la partie inférieure et s'appuyer sur la partie supérieure pour marchander avec les colporteurs en ne laissant dépasser que le buste. D'un point de vue technique, elles avaient la possibilité d'acheter des tapis ou des bracelets, la poitrine couverte et le derrière à l'air. D'un point de vue purement technique, 100 ans. 9 marches raides conduisaient depuis l'allée à la véranda de devant. Sa position surélevée conférait à cette dernière la dignité d'une scène où tout ce qui s'y passait prenait la dimension mystérieuse d'une représentation théâtrale. Elle surplombait le jardin ornemental de Baby Koshama, qui, entouré d'une allée de gravier, descendait en pente douce jusqu'en bas du petit tertre sur lequel se dressait la maison. La véranda était profonde et fraîche, même en plein midi, quand le soleil était au plus haut. Coula le sol en ciment rouge, il fallut le blanc de près de 900 œufs pour qu'il prenne, avec le temps, cette belle patine qu'il avait acquise. Sous la tête de bison empaillé, aux yeux en bouton de culotte, flanqué de part et d'autre des portraits de son beau-père et de sa belle-mère, Mamachi était assise dans un fauteuil en rotin, devant une table en rotin, sur laquelle trônait un vase en verre vert, d'où jaillissait une seule tige d'orchidée violette. L'après-midi était tranquille et chaud. L'air attendait. Mamachi tenait sous son manteau un violon en bois brillant. Ses lunettes de soleil en amande, datant des années 50, étaient d'un noir opaque. Les coins de la monture étaient piqués de faux diamants. Elle portait un sari blanc, cassé et or, parfumé et soigneusement amidonné. Les diamants de ses boucles d'oreilles brillaient comme de minuscules chandeliers. Ses bagues en rubis étaient trop grandes. Sa peau fine et pâle était plissée comme celle du lait qui refroidit et semée de minuscules verrues rouges. Elle était belle, vieille et étrange. Elle avait un port de reine. La veuve au violon, aveugle. Plus jeune, elle avait, avec la prescience du gestionnaire avisé, rassemblait au fur et à mesure tous les cheveux qu'elle perdait dans une petite bourse brodée qu'elle gardait sur sa table de toilette. Une fois qu'elle en eut assez, elle en fit un petit chignon qu'elle enferma dans un tiroir avec ses bijoux. Quelques années auparavant, quand ses cheveux avaient commencé à se clairsemer et à s'argenter, elle s'était mise à porter son chignon d'un noir de jais qu'elle fixait avec des épingles sur sa petite tête grisonnante. Suivant son code à elle, il s'agissait là d'une solution parfaitement recevable, puisque ses cheveux étaient bien les siens. Le soir, une fois son chignon enlevé, elle autorisait ses petits-enfants à tresser ce qui lui restait de cheveux en une natte serrée et huilée, pas plus grosse qu'une queue de rat qu'elle faisait tenir par un élastique. L'un s'occupait de sa tresse, pendant que l'autre comptait ses innombrables verrues. À tour de rôle. Sur son crâne, que ses rares cheveux dissimulaient soigneusement, Mamachi avait des boursouflures en forme de croissant, cicatrice de l'épouse, jadis battue par son mari. Ses stigmates à elle, laissés par un vase en cuivre. Elle jouait lentement, un mouvement de la suite numéro 2 en ré majeur de Water Music de Handel. Derrière ses lunettes en amande, ses yeux désormais inutiles étaient fermés. Mais elle voyait sans peine la musique quitter son violon et monter en volute dans l'air de l'après-midi.
Mrs. Roy a sous la plume le combat des femmes. Roy, les canons fument, les puissances pâment. Mrs. Voix de la paix dénoncera la fable. Elle a embrassé les lèvres de l'intouchable. Arundhati en règle la machine, indienne en sari. Arundhati balaye les doctrines et l'Inde est en vie. Mrs. Roy, fille du Kerala, un diamant sur le nez. Roy a de grands yeux qu'elle aime promener.
Missis fait monter au ciel ce dépuissant. Elle scandaleusement belle défie les géants. Arundhati enraye la machine indienne en sari. Arundhati balaye les doctrines et l'Inde est en vie. Arundhati enraye la machine indienne en sari. Arundhati balaye les doctrines et l'Inde est en vie. Mrs. Roy offre au monde son inspiration. Elle se déchaîne de ses traditions. Mrs. tient dans le creux de ses mains le dieu des petits riens. Arundhati enraye la machine indienne en sari. Arundhati balaye les doctrines et l'Inde est en vie. Arundhati enraye la machine indienne en sari. Arundhati balaye les doctrines et l'Inde est en vie.
La résonance pour moi avec Le Dieu des Petits Riens, c'est un film récent que l'on doit à une réalisatrice indienne, Payal Kapadia, film qui a obtenu cette année le Grand Prix du Festival de Cannes. C'est All We Imagine as Light, que l'on peut traduire par Tout ce qu'on imagine comme lumière.
ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങാം.
ഇറങ്ങോ, വീട്ടിൽ കാണാം.
സിസ്റ്ററിന്റെ റൂംമേറ്റിനെ ഈടായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ. ശ്രദ്ധിച്ചാലും
അന്നു
അവളൊരു പയ്യനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില്ല.
ഇത് പ്രവേശിക്കാണല്ലോ. മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ അല്ലേ?
लास्ट टाइम कभी फोन किया था उसने?
एक साल से ऊपर हो गया.
സച്ചം വിളിച്ചേച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു.
നീ ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ?
Payal Kapadia avait été révélée en 2021 avec Toute une nuit sans savoir, un documentaire poético-politique autour d'une grève d'étudiants, récompensé par l'œil d'or du meilleur documentaire à Cannes. All We Imagine as Light est donc son premier long métrage. Dès les premières images, vous êtes plongé dans l'atmosphère de Bombay ou Mumbai, avalé par le rythme, les bruits, les lumières de cette ville qui sont rehaussées par les voix off que Payal Kapadia a intégrées comme une amorce documentaire à son film. L'histoire, c'est celle de l'amitié de trois femmes, femmes de trois âges différents, comme le dit la réalisatrice, ce pourrait être une même vie à des moments différents. À nous, jeunes infirmières, se révèle être la plus libre, la plus imprudente aussi, pour retrouver son amoureux et défier les interdits. La deuxième, Prabha, sa colocataire, également infirmière, est plus âgée. Elle est mariée à un homme parti vivre en Allemagne et qui ne lui donne plus de nouvelles. Même si ce mariage est une union qui lui a été imposée, elle reste attachée à des valeurs traditionnelles et se considère encore comme une femme mariée, s'empêchant ainsi de vivre toute autre relation. La troisième femme, plus âgée, est une cuisinière sans papier, aidée par Prabha dans ses démarches car elle est menacée d'être expulsée de son logement qu'elle occupe depuis plus de 20 ans par un promoteur immobilier. Un film sur les religions, les castes et l'amour en Inde aujourd'hui, vu à travers l'amitié de ces femmes qui s'épaulent et résistent au poids des traditions, traçant chacune à leur mesure un chemin vers l'émancipation. Ce film pourrait se résumer à deux couleurs. La couleur bleue, dans la première partie, cette couleur qui règne sur la ville de Bombay, qui est due à tous les plastiques de couleur bleue qui sont installés pendant la mousson pour résister à la pluie et à l'humidité. La deuxième couleur, c'est le rouge, celle qui est présente dans la deuxième partie qui se passe à Ratnagiri, un village côtier au sud de Bombay, où la terre et les maisons construites avec cette même terre sont de couleur rouge. C'est là que le conte s'immisce dans le scénario et cet endroit devient pour ces femmes le lieu des possibles, par opposition à la ville qui contraint leur vie et leur avenir. Une citation d'Arundhati Roy. Dans les premiers temps, on me décrivait, on me présentait comme l'auteur d'un premier roman dont le succès, passez-moi l'expression, était une bizarrerie de l'édition. Aujourd'hui, c'est moi qui suis bizarre. Je suis apparemment ce que le jargon du XXIe siècle appelle communément un écrivain militant, sur le modèle de Banquet Lee. L'arbre solidaire avec ses congénères. On a déjà parlé dans cette chronique des relations des arbres entre eux, leur permettant notamment de se prévenir d'un danger imminent grâce à l'émission d'un gaz. Ce mode de communication n'est pas le seul lien qui les unit, puisqu'il apparaît que des arbres d'une même espèce et d'un même peuplement sont reliés entre eux par un véritable réseau. Et s'ils sont capables de différencier leur système racinaire de celui d'autres espèces ou d'autres individus de la même espèce, ils sont aussi capables de partager de la nourriture via ce réseau de racines. Ainsi, la communauté d'arbres peut apporter des éléments nutritifs aux individus de l'espèce qui sont malades jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Ce phénomène de soutien à l'intérieur d'un groupe n'est observable que dans les forêts naturelles. Peter Vollenben, dans son ouvrage « La vie secrète des arbres », parle même d'amitié pour ces arbres qui non seulement partagent des nutriments au profit des plus faibles, mais se respectent aussi au niveau du développement de leurs houppiers, en ayant soin de ne pas déployer de trop grosses branches en direction de leurs congénères afin de ne pas empiéter sur leur espace de vie. Alors, encore une fois, la nature, et les arbres en l'occurrence, nous montrent le chemin à suivre. À bon entendeur, salut! Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Millefeuille revisité, toujours sur l'autre radio.